Utopod 040, 24 avril 2010, au-dessus de Shibuya, de Sébastien Sevet. Cet épisode est diffusé en partenariat avec les Imaginales, Festival des mondes imaginaires d'Épinal, www.imaginal.fr. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle de Sébastien Sevet, au-dessus de Shibuya. Elle figure au sommaire de Dimension Suisse, anthologie à paraître le mois prochain, aux éditions Rivière Blanche, sous la direction de Vincent Gessler et d'Anthony Valla. L'ouvrage présente 13 textes de SF et de fantastique écrits par des auteurs suisses romands actuels. L'anthologie sera lancée fin mai dans le cadre des Imaginales à l'occasion d'une table ronde qui sera suivie d'une séance de dédicaces. Seront présents l'éditeur, les deux anthologistes ainsi que plusieurs des auteurs, notamment Sébastien Sevet et votre serviteur. La prochaine édition du festival Imaginal, partenaire officiel d'Utopod, se déroulera à Épinal, en France, du 27 au 30 mai prochain. Au programme, 60 cafés littéraires, tables rondes, conférences et débats, des lectures publiques, des concerts, une foule d'invités prestigieux et bien d'autres surprises. Plus d'infos dans l'épilogue de cet épisode. Sébastien Sevet est né en 1984 à Bâle. Ingénieur en informatique diplômé de l'EPFL, il travaille à Londres comme développeur dans une start-up qui monte une plateforme de musique en ligne. Sébastien est passionné de nouveaux médias, de son, de cinéma, de culture, de langue et de science-fiction, en particulier la prospection technologique à court terme. La lecture de William Gibson, Charles Stross et Cory Doctorow l'incite à prendre la plume et il écrit d'emblée des textes ambitieux dont les thématiques et le traitement s'alignent avec brio sur la production anglo-saxonne actuelle. À ce jour, il a publié une poignée d'essais et de nouvelles et on peut également le lire sur son blog inso.cc. Le lecteur du jour est Sylvain Demierre, artiste aux multiples talents bien connu de nos auditeurs. Sylvain sera présent aux Imaginales où il œuvrera en qualité de lecteur. Retrouvez-le à Épinal en chair et en os ou sur son site d'illustrateur www.oasis-studio.ch. Et maintenant, fermez les yeux pour mieux apprécier la bande passante, glissez-vous dans les interstices de Meta Tokyo et place à la littérature.
Au-dessus de Shibuya, de Sébastien Sevet. La biche explosa en un nuage de cœur rose au contact de la petite fille. Les enfants autour d'elle éclatèrent de rire et se mirent à sautiller pour les attraper. Un garçon se retourna et cria quelque chose. La biche était réapparue derrière eux. Ils la prirent en chasse, maladroitement, leur kimono trop ample flottant dans le vent. Adrian les regarda s'éloigner, fasciné. Il isola la séquence, la compressa et routa le flux vers la console qui dormait à près de 10 000 km de lui sous la table de son salon, dans le 18e arrondissement. Claire la verrait à son réveil. Il n'avait pas réussi à la convaincre de quitter Paris pour l'accompagner, mais elle lui avait fait promettre un compte-rendu détaillé de son reportage. Des pas dérapèrent derrière lui et un ado en habit de baseball vint s'écorcher les mains dans l'herbe à ses pieds. Le garçon se releva d'un bond et s'excusa avec profusion en japonais, les yeux rivés au sol. Sa séance de courbette terminée, il nota l'air amusé d'Adriane. D'abord surpris, il sourit à son tour, puis forma un cube noir dans le creux de son gant et l'envoya à Adriane sur le canal public. Les faces du cube se déplièrent et se reconfigurèrent en une surface plane, toujours opaque. Adriane la toucha du bout des doigts et elle s'illumina, parodie d'un vieil écran cathodique, pour afficher le flyer de la partie de baseball. Il repéra la fréquence de leur réalité augmentée et activa le canal pendant que le garçon rejoignait ses amis au pas de course. Trois bases apparurent sur la pelouse. Adriane s'écarta de la quatrième, qu'il piétinait virtuellement. Un panneau de score géant tournait au-dessus du lanceur qui venait, lui aussi, de se matérialiser. Un hémisphère irisé couvrait le terrain. Des spectateurs de tous âges s'étaient rassemblés pour regarder la partie. La plupart d'entre eux étaient assis dans l'herbe, regroupés autour des petites colonnes blanches des émetteurs pour profiter d'un meilleur signal. Le batteur dégagea la balle virtuelle au second lancer et entama un sprint. Le projectile monta assez rapidement, puis suivit la courbure du dôme selon une trajectoire étrange. Adrian soupira d'admiration. Pour pallier les dimensions restreintes du terrain, la physique fonctionnait sur un modèle hyperbolique. Il se demanda combien de temps les joueurs avaient mis à calibrer leurs réflexes pour un espace non euclidien. Le Japon vit dans le futur. Il y vit depuis un siècle. L'adage, tiré d'un vieil article du Time Magazine, l'avait longtemps fasciné. Dès la fin du XXe siècle, la connotation futuriste du Japon s'était renforcée et, depuis les balbutiements des salons à immersion totale, on avait assisté à un exode de technophiles vers Tokyo. À l'heure des interfaces neuronales rudimentaires en Europe, les expatriés applaudaient des séquences surréelles de leurs incursions hypersensorielles. Tous les hackers de réalité virtuelle luttaient pour obtenir un précieux visa, Adrian le premier. La politique d'immigration stricte et diverses complications bureaucratiques avaient retardé son départ à plusieurs reprises. C'était à cette époque qu'il avait connu Claire. Elle désapprouvait son enthousiasme pour le virtuel et avait fini par avoir raison de ses plans d'évasion. Suite à ce sacrifice consenti, il avait cherché de nouvelles passions vers lesquelles se tourner, en vain. Jusqu'au jour où, à l'occasion d'une soirée chez des amis berlinois, il s'était retrouvé devant un faux documentaire qui présentait les débordements d'une culture tokyoïte futuriste fantasmée. Une œuvre d'art moderne sous forme de délire anthropologique. C'est ainsi qu'il avait rencontré pour la première fois ce qui allait devenir son univers, Meta-Tokyo. Le documentaire initial présentait essentiellement des distributeurs automatiques fantaisistes, de chiens, de vélos, de violoncelles, mais d'autres artistes avaient suivi avec des photomontages mettant en scène des plages à UV souterraines ou encore des reportages sur des centres commerciaux construits à l'image des forêts. Tout un style musical avait vu le jour pour accompagner les concerts de musiciens robots. Très vite, Adrian avait adopté un rôle de conservateur du mouvement. Creusant les sources et recoupant les créations, il en avait déjà constitué un panorama impressionnant lorsque les médias étaient tombés sur le sujet. Tous avaient sauté sur l'idée pour la recycler, l'augmenter, la compléter au travers d'articles, de reportages, de fictions, de publicités. Dans l'inconscient collectif, le mème du Tokyo virtuel s'était développé, popularisé jusqu'à engloutir son modèle réel et se substituer à lui. Meta Tokyo représentait désormais le quotidien tokyoïte aux yeux du monde. Et aujourd'hui, la commande d'un reportage exclusif sur un nouveau dérivé de Meta Tokyo donnait enfin l'occasion à Adrian de visiter sa source originale, Tokyo, et d'absorber pour la première fois l'exubérance estivale du parc de Yoyogi. Il copia la séquence de baseball sur son bureau et reprit son chemin dans le parc. Une fois qu'il fut hors de portée des émetteurs, le panneau tournant, les bases et l'hémisphère s'évanouirent, ne laissant que des joueurs en casquette et maillots blancs lignés de rouge courant après une balle invisible. Adrian fit défiler les différents plans de réalité. Il avait dû faire modifier son interface pour les filtrer. Son chip suédois, dernier cri en Europe, saturait au Japon s'il affichait plus du quart des canaux disponibles. Chaque groupe se calquait sur son propre émetteur. Il y en avait des centaines dans les alentours. Enfin, Adrian rejoignit le pont qui reliait le parc à l'urbanisme vertical de Harajuku. La foule s'était densifiée. Des touristes, pour la plupart, venus voir le carnaval quotidien de cosplay. Il bascula sur les canaux locaux. Une espèce de nounours géant violet portait autour du cou un panneau « Free Hugs ». Des lolitas néo-gothiques se maquillaient dans un coin, au milieu d'un brasier ardent. L'une d'elles tenait un petit démon en laisse. Un peu plus loin, trois filles faisaient jouer leurs longues ailes blanches pour de jeunes Américains. Adrian préparait un nouveau transfert vers son bureau lorsqu'il perçut une inflexion de la bande passante, comme si les multiples réalités étaient imperceptiblement aspirées vers le parc. Le vacarme ambiant s'atténua soudain. Une rumeur sourde s'amplifiait. L'une des filles aux ailes d'ange pointa quelque chose du doigt.
« Qu'est-ce que ?»
demanda-t-elle. Adrian se retourna. Des vecteurs rouges, bleus, jaunes jaillissaient à la verticale des arbres, s'incurvaient pour filer vers l'intérieur du parc. L'azur du ciel semblait s'être cristallisé et l'air, changé, comme soudain plastifié. Le grondement s'aiguisa. Un premier coin blanc émergea derrière la cime des arbres, puis un second. Un large voile glissait au-dessus du parc. Le bourdonnement s'articula alors en un concert de notes électroniques. Les vecteurs colorés venaient frapper la surface en déclenchant une avalanche perlée de mélodies. Les couleurs s'étendaient depuis chaque point d'impact et se mêlaient pour créer des motifs aléatoires en perpétuelle évolution. Les taches glissaient, mutaient, se réorganisaient. Au milieu du chatoiement de teintes et de formes, une courbe brune attira l'attention d'Adriane. Elle s'arquait en une boucle douce, repliée à son extrémité, et entourait les traits rapides d'une figure de profil. Impossible. Le visage de Claire se tourna vers lui, les taches noires de ses pupilles le fixant droit dans les yeux. Puis le menton commença à se déliter, le nez s'évasa, le contour des pommettes se compressa. L'apparition se désagrégea ainsi, de manière à la fois fluide et grotesque. Le voile continua son vol en direction du centre-ville. Autour de lui, les passants discutaient en petits groupes, les yeux rivés vers le ciel, comme hypnotisés, jusqu'à ce que les dernières couleurs disparaissent derrière les colonnes urbaines. C'est à ce moment qu'Adriane nota le tintement d'abord discret puis entêtant de son agenda. 14h00, conférence de presse, Overlay Reality, Ginza. Le tracker glissait sur les carreaux blancs du métro. Adriane le suivait machinalement, entraîné par le flot dense mais fluide des passagers. Il traversait le dédale sans chercher de repères, trop préoccupé par l'apparition incompréhensible sur le voile. Il s'était repassé la séquence en boucle. Aucun doute possible, il s'agissait bien de Claire, projetée sur une surface géante volant au-dessus de Tokyo. Ce qui n'avait absolument aucun sens. Un jingle pressant résonna sur le quai et Adriane monta dans le wagon illuminé par le tracker. Les portes se refermèrent. Il se retrouva coincé entre deux businessmen en costume et un vieil homme qui portait une casquette filet orange « No curry, no life ». Adriane les dépassait d'une demi-tête, mais il semblait décidé à ne pas le remarquer. Le reste des passagers dormait ou suivait un quelconque divertissement derrière leurs yeux clos. En revanche, un groupe d'écolières l'observait depuis le fond du wagon. Elles gloussaient derrière leurs mains, à la fois timides et curieuses. Leurs uniformes détournés, jupes retroussées jusqu'à mi-cuisse, un discret lapin playboy sur le bleu marine des chaussettes, lui rappelèrent les extensions érotiques de Meta-Tokyo. Des modules de vision superposant en temps réel une sélection de fantasmes sur le corps de jeunes fillettes insouciantes, des filtres dévoilant ou modelant leurs formes innocentes. Aucun indice ne laissait présager une telle perversion dans le cas présent, quoique. Il allait parcourir les canaux pour s'en assurer quand un appel arriva. Il accepta la connexion. « C'est une plaisanterie !» lança Claire. Elle avait dû visualiser la séquence du parc. La discussion s'annonçait difficile. « Je ne sais pas, » répondit Adriane. « J'ai cherché à tracer la source, mais c'est bizarre. »« Je croyais que tu avais un don pour ces trucs virtuels. »« Le voile était émis sur tous les canaux simultanément. »« Du spam ?»« Impossible. Personne n'arriverait à gérer une telle bande passante. »« En fait, les données semblaient venir de centaines d'émetteurs à la fois. »« Vraiment étonnant. » À l'autre bout de la connexion, Claire garda le silence. Le vieil homme à casquette bouscula fermement Adriane pour se faufiler vers la porte. « Rentre !» reprit Claire. « Pardon ? Rentre à Paris !» répéta-t-elle. « J'ai un mauvais pressentiment. Ne laisse pas ta passion tourner à l'obsession. »« Claire, j'ai un reportage à terminer. »« Tu ne peux pas te faire remplacer ?» demanda Chris. « Il est en mission à Shanghai. Il pourrait prendre ta place. »« Chris n'y connaît rien à Meta-Tokyo. Si j'ai été choisi, c'est parce que personne ne maîtrise le sujet aussi bien que moi. C'est une étape majeure de l'évolution du mème, peut-être son aboutissement. Et l'inauguration a lieu ce soir. » À ce moment, le tracker se détacha du plafond pour encadrer les portes du wagon et clignoter comme un néon d'alarme jaune. « Tu m'avais promis de m'écouter quand je te dirais d'arrêter, » insista Claire plaintivement. « Et Emma ? Tu pourrais demander à Emma ? Je crois qu'elle est encore en vacances à Taipei. Si tu... Claire, je dois te laisser. J'en saurai peut-être plus après la conférence de presse. » Elle coupa la connexion sans un dernier mot. Adrian descendit du métro, suivit son tracker vers la sortie et émergea à l'angle d'un imposant croisement. Le tracker poursuivit une dizaine de mètres sur la droite, scintilla puis disparut. 13h57. Adrian souffla puis embrassa les environs du regard. L'avenue creusait dans la matière urbaine un profond sillon dont les parois nettes affichaient une mosaïque architecturale hétérogène. Panneaux de verre fumés, béton et vitres parsemés de LED multicolores, écran translucide serti dans une structure d'acier. À intervalles réguliers, les façades blanches épurées des department stores spammaient aléatoirement leurs annonces sur différents canaux. De chaque côté de la route, de larges trottoirs laissaient circuler un flux ininterrompu de passants. De vieilles dames en kimono traditionnel, des écoliers en uniforme bleu marine, des couples parés selon la mode mensuelle. Adrian sentit l'arrivée d'un nouveau message à 2h pile. Pour seul contenu, une clé. Le dernier cri du minimalisme branché. Des clubs select à New York lui en faisaient parvenir ponctuellement pour accéder à leur canot VIP. Adrian l'importa dans son trousseau et la chargea. Un auvent noir ligné d'or se matérialisa alors devant la façade la plus proche. Il surmontait une porte de service discrète, auparavant invisible mais maintenant ornée du chatoiement insistant d'une enseigne « Overlay Reality ».
L'overlay, expliqua Jonathan Glass, ne requiert aucune infrastructure, aucun émetteur physique. Il existe dans notre réalité augmentée quotidienne.
Pendant qu'il parlait, Glass arpentait l'espace en scrutant un à un les membres de son audience restreinte. Adrian avait été surpris de découvrir que moins d'une vingtaine de journalistes étaient présents, tous japonais. Il avait traversé seul les bureaux où s'activaient une trentaine d'employés, isolés pour la plupart derrière un enchevêtrement élégant mais compliqué de panneaux. En écho à la dernière mode des start-up, aucun collaborateur n'était présent physiquement et, comme il ne lui avait prêté aucune attention, il s'était demandé s'il apparaissait lui aussi dans leur réalité ou si la projection ne se faisait que dans un sens. Glass, bien sûr, était synchronisé. Et pendant qu'il parlait, Adrian avait mesuré un délai réactif d'environ 330 millisecondes, deux fois le délai transpacifique, ce qui pouvait le situer aussi bien à San Francisco qu'à Berlin. Ou dans un bâtiment voisin, moyennant un simple retard simulé. Mais Adrian avait décidé qu'il n'était pas japonais. Trop direct, trop peu protocolaire. En fait, il se payait probablement le luxe d'apparaître virtuellement tel qu'il était dans la réalité, jusqu'aux coutures minutieuses de son costume noir, si soigné qu'il semblait avoir coûté plus cher que l'original. Ses cheveux gris le vieillissaient exagérément, sans toutefois qu'Adrian puisse les imaginer autrement. « De ce fait, » continua Glass, « les coûts d'exploitation sont quasi nuls et le déploiement de nouveaux contenus. Comment l'overlay peut-il tourner sans infrastructure ?» coupa Adrian. Glass posa deux doigts sur sa tempe, le temps d'évaluer le type de réponse qu'il pouvait donner.
« En pire tout pire, »
finit-il par lâcher en pinçant les lèvres.
« Tout récepteur fonctionne comme émetteur. L'overlay existe dans cet espace interstitiel. Y accéder, c'est l'émettre, et vice-versa. Le protocole demande une masse critique qui est ici largement satisfaite.
« Mais quel rapport avec MetaTokyo ?» demanda Adrian.
« La limitation évidente de cette architecture est qu'on ne peut pas insérer directement du contenu, » répondit Glass. « L'overlay contient la projection du tampon mémoire de chacun, qui bien sûr n'est pas accessible en écriture. Il s'agit donc d'y synchroniser un contenu prédéfini. comme le même universel de MetaTokyo, acheva Adrian.
Exactement. Les mèmes se répliquent typiquement sur un modèle distribué. La propagation sociale des idées est exponentielle. On peut ainsi déployer de nouvelles parcelles de réalité virtuelle à travers le monde en quelques instants. Il suffit d'en répandre les semences culturelles sur le net. MetaTokyo a fourni une base idéale, mais ce n'est qu'une amorce, pas une fin en soi.
Glass laissa l'audience digérer ces mots.
Qu'est-ce qui vous fait croire que les gens continueront à faire circuler vos mèmes ?
Demanda l'un des journalistes sous couvert d'un fort accent japonais.
Allons, s'éleva une voix derrière Adrian. La société s'en nourrit plus que jamais. Inconsciemment, elle y épanche son surplus cognitif et les fait vivre.
Adrian se tourna vers l'intervenante. Elle paraissait plutôt jeune, mais il avait appris à ne jamais estimer l'âge des Asiatiques. Il captura la signature de son aura électronique et la passa dans un moteur de recherche.
Si je comprends bien, conclut l'inconnu, l'overlay donne simplement la possibilité de fusionner cet univers imaginaire avec la réalité.
Asuka Saito, philosophe freelance et éditorialiste de Genjitsu no Tameni, un simcast populaire au Japon. Adrian avait visualisé plusieurs de ses épisodes sur le thème de l'hyper-réel.
Exact, fit Glass, dont la bouche esquissait presque un sourire. Le virtuel culturel forme une méta-réalité.
Mais au mépris de l'imagination individuelle de chacun, intervint Adrian. Est-il légal de projeter publiquement l'inconscient de la population ?
L'inconscient collectif, précisa Glass. À qui appartient-il ?
Le culte de l'individualisme occidental n'a pas cours ici, reprit Saito. Et je ne doute pas que ce facteur ait joué dans le choix du Japon comme plateforme d'expérimentation.
Glass acquiesça avant de conclure.
« Je dois malheureusement vous quitter car il nous reste beaucoup à préparer. Merci de votre présence. J'espère que vous apprécierez le résultat. »
Sur quoi il s'inclina brièvement et disparut.
Les journalistes se levèrent et commencèrent à discuter entre eux en japonais en se dirigeant vers la sortie. Saito s'approcha d'Adrian.
« Adrian Fredriksson, le fameux inventeur du terme MetaTokyo. » fit-elle avec une malice peu nippone. « Quel honneur !»«
Saito-san, » répondit Adrian. « Enchanté. J'ai beaucoup apprécié votre épisode sur cette IA qui se faisait passer pour Baudrillard. »«
Stimulacre ? Je croyais que les intellectuels français l'avaient détesté. »«
Oh, mais absolument, ils l'ont détesté. »
Elle sourit, amusée. « Vous pouvez m'appeler Asuka. »«
Et moi, Adrian. »
Elle était plutôt petite, ce qu'elle compensait par un air déterminé. Des cheveux relativement courts, noirs bien sûr, brochés en arrière comme une itération moderne d'une coupe traditionnelle. Sa chemise ample descendait sur les plis sombres qui faisaient office de jupe.
« Vous n'avez pas l'air enchanté par ce qui se prépare ?» dit Asuka.
« Je devrais ?»
Overlay Reality s'apprête à transformer le mème le plus fascinant de notre génération en une vulgaire projection virtuelle.
« Qu'est-ce qui vous contrarie le plus ?»
demanda Asuka. « Que cette possibilité n'ait pas fait partie des délires fantaisistes de MetaTokyo ou que vous en perdiez l'exclusivité ?»«
Probablement les deux, » grommela Adrian.
Ils quittèrent la salle de conférence et traversèrent le dédale de bureaux inoccupés.
Vous ne viendrez pas assister à l'ouverture ? Demanda Asuka.
Je crois que j'ai assez perdu de rêve à Tokyo comme ça.
Appelez-moi si vous changez d'avis.
Elle lui remit cérémonieusement sa carte de visite avant de le quitter.
Tokyo. Nuit grise piquetée de lumière derrière le double plexiglas de sa chambre au 23e étage. Au sud-ouest, les tours de Shinjuku dominaient stoïquement l'étendue urbaine, stèle moderne et habitée. Plus proche, une partie de football se disputait dans la bulle illuminée du toit d'un immeuble. Et partout, le glissement silencieux des trains, voitures, camions, dans le système enchevêtré des artères de la ville.
Adrien était nu, assis en tailleur à même le tatami, dans une odeur mêlée de fibres et de thé vert, absorbée dans une instance virtuelle de son esprit. Il brassait ses notes des derniers événements. Il avait refusé de répondre aux appels de Claire, besoin de calme pour laisser décanter ses émotions, de solitude pour se recentrer. Le mystère du voile s'était effacé derrière le recul brutal qu'avait imposé le discours de glace. Métatokyo. Le phénomène qu'il avait étudié, décortiqué, encensé ces 6 dernières années se voyait réduit à une simple pièce fonctionnelle d'un puzzle d'une toute autre envergure. Non seulement avait-il perdu tout angle pour son reportage, mais sa passion s'était comme transformée en artifice puéril au relent de tromperie, de consumérisme opportuniste. Métatokyo allait se démocratiser, se solidifier, se banaliser. Son dernier ami hacker, au moment de quitter l'Europe pour le Japon, lui avait demandé en guise d'adieu « Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ?» Cet exode a perdu tout son sens, avait rétorqué Adrian. En le popularisant, les médias nous ont dérobé notre rêve. Et que feras-tu quand ils se saisiront pour de bon de ton méta-Tokyo ? Adrian n'avait pas répondu. Longtemps, il avait surfé sur la vague, gardant toujours une longueur d'avance sur l'industrialisation effrénée de méta-Tokyo. Lorsque des millions de filles s'habillaient selon le style d'une de leurs idorous, il rebondissait sur d'obscurs documentaires alternatifs qui réinventaient la faune cachée des jardins impériaux. Et quand l'idée des centres commerciaux volants avait été recyclée en décor pour un film de Yakuza à gros budget, il avait publié un long essai sur les relations incestueuses d'une gaïcha androïde avec son créateur. Cette supercherie culturelle résistait même à la visite du vrai Tokyo. Le mythe se glissait suffisamment dans les interstices des faits pour s'y justifier. L'imagination s'en trouvait doublement stimulée. Mais aujourd'hui, la question se posait à nouveau et Adrian n'avait toujours pas de réponse. Lorsqu'il rouvrit les yeux, sa tasse de thé vert était froide. Dans le coin de sa chambre, une gaïcha faisait danser ses doigts sur les cordes d'un coteau muet. Elle ne lui prêtait aucune attention. Il rétablit doucement le son de l'instrument et laissa les notes diluer ses pensées. De la sueur perlait sur son front et ses tempes. Il l'essuya d'un revers de main, puis enfila le long yukata posé sur son lit et traversa la gaïcha pour sortir de sa chambre. Sous ses pieds, il sentit le bois chaud du couloir, puis la moquette épaisse de l'ascenseur. Quand il fut arrivé au dernier étage, de l'air moite s'engouffra dans la cabine et Adrian s'avança sur la fraîcheur des dalles. Il défit son yukata et le plaça dans une corbeille, attrapa une petite serviette et pénétra dans l'humidité du onsen. Un vieil homme se savonnait vigoureusement, accroupi sur un court escabeau. Il ne se retourna pas. Après une toilette rapide, Adrian fit glisser l'une des portes vitrées couvertes de condensation pour rejoindre le bassin fumant sur la terrasse. Il se relâcha sous l'effet de l'eau brûlante et des vapeurs sulfurisées. Le souffle de la mégapole perçait faiblement dans l'air frais. Le bord du bassin donnait directement sur la ville. Au loin, la silhouette dorée d'un énorme dragon dansait dans le ciel, sur le canal Shinto.
« Asakusa !» dit une voix grave.
Adrian sursauta. Le vieil homme s'était glissé dans l'eau sans un bruit. Son regard pointait en direction du dragon.
« Asakusa !»
répéta-t-il un peu moins sèchement. Puis il se mit à discourir en japonais avec un air sérieux. Adrian comprit que son interlocuteur n'était pas augmenté et s'empressa de lancer son module de traduction orale.
« 1000 pins sacrés sont apparus à côté de Senzoji, à Asakusa, » disait le vieil homme. « 3 jours plus tard, un dragon d'or est descendu du ciel jusque dans les pins et on ne l'a plus jamais revu. Fascinant, n'est-ce pas ?»
Il considéra Adrian de son regard sérieux, puis se mit à rire de bon cœur. Il ramassa sa petite serviette et quitta le bassin. Adrian reporta son attention sur le dragon. Il comprit que le vieil homme n'avait pas pu le voir, mais qu'il n'en avait pas eu besoin. Quoi qu'il arrive, il existait et existerait pour toujours dans le mythe et dans son imagination. Adrian resta encore quelques instants à scruter les lumières de la ville avant d'appeler Asuka.
« Venez à Shibuya !» répondit-elle. « Ça commence !»
Adrian se frayait péniblement un chemin à travers la foule compacte. Au-dessus de sa tête, les enseignes au néon éclairaient la place, assorties d'écrans géants greffés sur les parois alentour. Chacun déclamait des annonces différentes qui se mélangeaient dans le tumulte de la masse. Un coin de voile dépassait des immeubles au fond d'une allée secondaire. Il se rapprochait, bombardé de raies de couleurs échappées du sol. Le grondement familier se faisait à nouveau entendre. Adrian verrouilla un tracker sur la position exacte d'Asuka de l'autre côté du croisement. La ronde des taxis lui barrait encore la route. Sitôt le feu passé au vert, il s'élança au milieu de la marée humaine qui traversait le passage. Adossé à la vitrine d'un café, Asuka le vit pratiquement s'écrouler à ses pieds, éjecté par la foule.
« Où se trouve le centre du quartier ?»
cria Adrian pour couvrir le vacarme.
« Suivez-moi !»
répondit Asuka sur le même ton. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans une étroite rue attenante, le kaléidoscope luminescent de Center Gay. Ils passèrent des rangées de bars qui superposaient leur musique au brouhaha et des magasins d'habits dont les mannequins virtuels se mélangeaient aux passants. La foule, jeune en majorité, présentait un arc-en-ciel vestimentaire déroutant. Asuka s'immobilisa à proximité d'un groupe particulièrement multicolore. Les hommes portaient de fines cravates noires sur des polos fluo et de longues bottines en daim. Les femmes arboraient d'amples chevelures blondes retombant en boucle sur une salopette raccommodée à une mini-jupe. Tous regardaient en l'air. Le voile recouvrait maintenant intégralement le ciel. Le vacarme assourdissant des couleurs allait en s'amplifiant, toujours plus aigu. Et leur éclat dépassa peu à peu celui du jour jusqu'à ce que la lumière devienne blanche, aveuglante. Adrian se protégea les yeux d'une main. Alors, l'imaginaire de Méta-Tokyo s'instancia sur la ville. Avec l'expérience, Adrian était devenu sensible au léger bruissement de sa vision qui accompagnait le chargement d'un nouveau plan de réalité augmentée. Là, sa vue se fragmenta carrément pendant plusieurs secondes avant de se recomposer, point par point, couleur par couleur. Une fois l'éclat retombé, il décrispa sa main, relâcha le bras d'Asuka puis balaya la rue du regard. La fusion était stupéfiante. Des éléments familiers de Méta-Tokyo occupaient chaque recoin de son champ de vision. Des robots chats chromés se chamaillaient devant la vitrine d'un magasin d'habits. Des ados se dévisageaient les uns les autres, affublés d'armures et d'épées démesurées, ou le corps parcouru de tatouages mouvants. Une nuée de drones réfrigérés vrombissait au-dessus de la foule pour vendre des sodas et des boulettes de riz. Une Idoru en kimono nacré se promenait drapée d'une aura lumineuse, ses cheveux roses, blancs, bleus flottant dans les airs. Et la rue tout entière vibrait au rythme des lumières, comme habitée par un million de lucioles bariolées. Asuka tira sur sa manche et lui fit signe de lever la tête. Le visage de Claire était apparu sur le voile. Ses traits étaient plus complexes que la dernière fois. Adrian les détailla. Des imperfections le titillaient. Sa bouche paraissait un peu trop large, ses sourcils étaient trop clairs et l'éclat de ses iris manquait de vivacité. Il projeta le visage corrigé dans son esprit. Sur le voile, l'esquisse se modifia, adoptant souplement ses changements. Poussé par son instinct, Adrian se libéra d'Asuka et s'avança au milieu de la foule, les yeux rivés au ciel. Des réflexes oubliés depuis ses excursions virtuelles se mirent en marche. Il chargea une série de souvenirs de Méta-Tokyo et en isola une poignée, ses préférés. Il commença par les drones. S'inspirant d'une histoire populaire, il les diversifia en une chaîne complète de services. Maquillage rapide, cabine de karaoké gonflable, distributeur de chemises propres. Il s'attaqua aussi aux chats, les fusionnant pour former un panda métallique qui grimpa le long d'un poteau électrique.
Arrivé au sommet, l'animal se mit à ronger le faisceau de fibres optiques qu'il avait arraché de la devanture d'un café. La rue vint ensuite et Adrian, vibrant, se mit à improviser. Il ajusta la fréquence des couleurs pour les synchroniser avec les gens à proximité. Des vagues de lumière roulaient dans les airs, répondant aux mouvements de la foule d'abord, puis entraînant les passants dans leur sillage, invitant à des rencontres ou séparant des groupes pour les réunir plus loin. Prenant du recul, Adrian s'éleva vers le voile. Sa surface panachée s'étendait entre les gratte-ciels qui dominaient la ville. Il l'embrassa une dernière fois du regard et, d'une pensée, l'effaça pour laisser petit à petit l'inconscient de Tokyo s'y imprimer.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme annoncé dans l'introduction, cet épisode vous a été présenté en partenariat avec les Imaginales, Festival des mondes imaginaires d'Épinal, en France. Cette année, l'événement se déroulera du 27 au 30 mai. Les Imaginales, qui existent depuis 2002, ont pris une belle ampleur ces dernières années et accueillent des écrivains prestigieux d'Europe et d'ailleurs. La prochaine édition recevra, parmi plus d'une centaine d'invités, des auteurs tels que Robert Charles Wilson, Joe Abercrombie, Pierre Bordage, Bernard Werber, Catherine Dufour, Jacqueline Carré, Christine Cachor, Greg Keyes, Henri Leuvenbruck, Juan Miguel Aguilera, Joan Elliott, Xavier Montméjean et des dizaines d'autres. Seront également présents une foule d'éditeurs, d'illustrateurs, de dessinateurs de BD, de critiques littéraires, de cinéastes et d'autres professionnels de la culture. Cette édition sera particulièrement riche en rencontres et en cafés littéraires, puisque l'organisation du festival a prévu une bonne soixantaine de tables rondes réparties sur 4 jours. Et pour les auteurs en herbe, sachez qu'Elisabeth Von Harburg, accompagnée de Jean-Claude Duniac et Lionel Davoust, animera un atelier d'écriture sur 2 jours. Plus d'infos sur le site du festival www.imaginal.fr. Et puis les Imaginales, cette année, ce sera l'occasion de rencontrer une partie du staff d'Utopod. Sylvain Demière, lecteur incontournable de l'émission, Clément Bourgoin, webmaster, et enfin votre serviteur, qui sera ravi de faire la connaissance de certains de ses auditeurs. Vous pourrez également y rencontrer bon nombre d'auteurs et d'anthologistes suisses romands. Jean-François Thomas, François Rouillet, Laurence Suner, Daniel Alhadef, Sébastien Sevet et d'autres. Anthony Valla et Vincent Gessler lanceront leur anthologie « Dimension Suisse », dont est tiré le texte de l'épisode d'aujourd'hui et qui contient la nouvelle « Puni » de Thibaut Kayser, originellement publiée par Utopod dans son épisode 028. Vincent Gessler présentera également « Cygnis », son tout nouveau roman récemment paru aux éditions La Talente. Alors voilà, chers auditeurs, cela me ferait très plaisir de vous rencontrer à Épinal et de boire un verre en votre compagnie. N'hésitez pas à me faire signe. Et si vous ne voyez pas le t-shirt Utopod dans les parages, demandez Lucas Moreno autour de vous, on devrait vous aiguiller. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, soit en live aux Imaginales, soit sur le flux d'Utopod dès fin mai. Bye bye.